Parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, faux et usage de faux. Éric Zemmour, en faussaire de l'histoire, comment le candidat d'extrême droite est-il devenu le chantre d'un nationalisme ethnique? On en parle avec notre invité, Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres sur l'antisémitisme et la Shoah en France, dont « L'État contre les Juifs ». L'historien publie ce mois-ci « La falsification de l'histoire » chez Grasset, un livre riposte au discours d'Éric Zemmour, à sa relecture de l'histoire comme argument de campagne, et un retour sur la manière dont l'histoire de Vichy et celle de l'extermination des Juifs ont été écrites, réécrites depuis 1945. Bonjour Laurent Joly.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. D'où vient Zemmour dans l'histoire? Parce que Éric Zemmour et l'histoire, c'est peut-être d'abord ça. Est-ce qu'Éric Zemmour est lui-même, pour vous, un produit de l'histoire, d'une certaine histoire?
Bah, tout le monde est le produit de l'histoire, d'une histoire.
Alors peut-être lui d'une histoire intellectuelle.
Oui, ce qui est troublant avec d'ailleurs le cas Zemmour, c'est que il se revendique gaulliste, il se revendique du RPR. Il est assez facile de situer Zemmour dans la tradition de l'extrême droite française, car c'est un profil qui avait un petit peu disparu de notre paysage politique et culturel et intellectuel. C'est celui de l'imprécateur nationaliste, du polémiste d'extrême droite. C'est-à-dire ce type d'acteur qui publie des livres sur l'histoire de France des dernières décennies, qui vous raconte que les dernières décennies ont été un long, long déclin, mais que lui a peut-être la solution si on l'écoute. Donc c'est le type La France juive de Drummond, 1886, pamphlet à la fois anti-républicain et antisémite. C'est Daudet, le stupide 19e siècle, c'est Maurras qui, pareil, réécrit les dernières décennies de la République pour dire que la France est en totale décrépitude, qu'elle est proche de disparaître, mais qu'il y a peut-être un dernier espoir. Et encore, quand on écoute Zemmour, ce dernier espoir, c'est 2022, l'année de la dernière chance, a-t-il encore dit récemment. Donc vous voyez, c'est vraiment une vision apocalyptique et qui est convaincu que la France va disparaître parce qu'elle va être submergée par une nouvelle population. Et ça, c'est vraiment une idéologie qui naît à la fin du XIXe siècle. Je l'appelle le nationalisme ethnique parce que c'est comme ça que c'est appelé par les acteurs eux-mêmes, des disciples de Maurice Barrès, de Charles Maurras, qui parlent de nationalisme ethnique, c'est-à-dire qu'on considère que la France est menacée parce qu'elle subit l'individualisme révolutionnaire, donc cette idéologie qui nous détruit, mais aussi un remplacement sournois par une nouvelle population, les métèques, les juifs, et aussi, figurez-vous, les protestants. C'était l'un des mythes nationalistes du tournant du XXe siècle. En 1900, Jacques Bainville, le maître de Maurras, était convaincu que les protestants étaient des ennemis de l'intérieur très dangereux. Voilà, donc vous voyez, Zemmour se situe vraiment dans cette tradition-là.
Oui, alors vous insistez aussi sur la figure de Charles Maurras, principal théoricien de l'extrême droite au XXe, qui répétait, écrivez-vous, que le succès de sa formule politique, le nationalisme intégral passait par la conquête des esprits, par la victoire préalable des idées. Et effectivement, vous qualifiez-vous, Laurent Joly et Éric Zemmour, de doctrinaire, à l'instar de Charles Maurras. Alors, c'est intéressant parce que récemment, lundi, Éric Zemmour a prononcé ses vœux à la presse et voilà ce qu'il disait.
Mesdames et messieurs les journalistes, Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République. J'étais le plus controversé d'entre nous et d'entre vous, oui, mais également le plus applaudi. Alors que vous n'êtes ni controversé, ni applaudi. Vous êtes toujours les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Mais qui ne vous aime pas ? Le peuple, mes bons amis. Le peuple vous en veut. La population vous taille des costards à la chaîne, de quoi vous rhabiller pour 100 ans. Et bonne année 2022.
Maintenant y'a le J dans l'équipe. Manque plus que Marion et l'équipe est mythique. J'passe en vitesse et pour moi l'Eurospi. Maintenant c'est mort la France, elle décide pour sa vie. Comme à l'ancienne, j'mets le polo Fred Perry. Maintenant Coco, tu vas t'assimiler. Rémigré, Yacine Bellatar. L'emmener vendre du démonte à la Jama, à la FNAC. Faire un bien retour pour les mineurs. La France, elle a subi trop d'offenses. Fin des souffrances, fin des souffrances. Et je t'enclenche si tu manques de décence. Je vais sauver la France, sauver la France. Premier meeting, je suis acclamé à Villepinte. À la Jean-Marie, j'ai un charisme de dingue. Je vais faire un coup, la présidentielle, je l'esquinte. Faut que je sauve la France, on peut plus attendre, c'est simple. Hommage à ma mère, elle a fait de moi un Français fier. On dit Français raciste, je veux juste mettre les choses au clair. Quand j'étais juste berbère, la vie c'était la misère. Elle m'a accueilli, je serai le président du millénaire. Faut que chauffe la France, elle a subi trop d'offenses. Fin des souffrances, fin des souffrances. Et je t'enclenche si tu manques de décence. Je vais sauver la France, sauver la France. Rémigré, Yacine Bellatar.
Bonjour Éric Zemmour.
Bonjour.
Nous commémorons cette semaine les 200 ans de la mort de l'empereur Napoléon. Napoléon, c'est tout ce que déteste la gauche woke et intersectionnelle.
Oh oui, même il faut aller au-delà de vos woke. C'est tout ce que déteste notre époque. Les polémiques autour de Napoléon, ça juge davantage notre époque que Napoléon. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il a rétabli l'esclavage, on dit qu'il est misogyne, on dit qu'il a trop aimé la guerre, on dit qu'il était dominateur, conquérant, etc. Suprémaciste blanc même maintenant. On voit là la médiocrité et les obsessions de notre époque, qu'il aurait balayé d'un revers de main. Au moins au XIXe siècle, les enjeux étaient quand même plus hauts, les républicains lui reprochaient d'avoir mis un terme à la Révolution et d'avoir tordu le cou aux libertés, et les monarchistes lui reprochaient d'avoir éveillé le nationalisme allemand qui, à l'époque, nous faisait des guerres à répétition. Vous voyez, la hauteur de vue par rapport à notre époque qui ne comprend rien aux enjeux géostratégiques, qui voit tout dans la médiocrité de l'intime et du petit et de l'individu refermé sur lui-même.
Mais pourtant, il a laissé la France plus petite et surtout plus exsangue qu'il ne l'avait trouvée.
C'est l'argument de Bainville qui est juste factuellement, mais je me permets humblement d'avoir un différent, le seul différent avec mon maître Bainville. Je pense que Bainville se trompe, c'est-à-dire que l'enjeu est bien plus grand qu'il a laissé la France plus petite. Oui, sauf que Si vous voulez, les guerres de Napoléon ne sont que la fin d'un siècle de guerre que nous fait l'impérialisme anglais, car nous sommes les seuls à contester sa domination sur les mers et sur le monde. De Colbert à Napoléon. Tout ça, c'est un bloc. C'est une guerre de 100 ans, comme disent, une deuxième guerre de 100 ans, comme disent les historiens anglo-saxons à juste titre. Vous voyez, à l'époque de Louis XV, donc la monarchie, les descentes en Angleterre, les projets de descente en Angleterre étaient légion, comme sous le Directoire. En fait, Napoléon n'a fait que finir cette histoire. Et malheureusement, moi, ce que je reproche à Napoléon, c'est d'avoir perdu. C'est pas tout le reste, vous comprenez. Pour moi, il est l'apothéose de 1000 ans d'histoire de France. C'est-à-dire que son empire français n'est que la grande nation étendue à ses frontières naturelles. Et c'est la taille normale de la France, le projet, vous voyez, de taille normale de la France pour qu'elle soit dominatrice et hégémonique en Europe et qu'elle puisse avoir une politique mondiale par une marine conséquente. Mais évidemment, ça rencontrait l'impérialisme anglais.
Ça veut dire que vous approuvez l'expansionnisme napoléonien, l'impérialisme, c'est bien le terme qui convient, tout ça au mépris du respect des frontières ?
Pas du tout. Les Capétiens ont, excusez-moi, hein, mais les Capétiens n'ont cessé d'agrandir le territoire. Simplement, Napoléon a passé la surmultipliée. Il est allé plus vite, oui, ça c'est sûr. Mais c'était l'époque. Vous savez, Daniel Alévi, l'historien, a un très joli mot qui répond à votre argument et qui répond même à Bainville et aux monarchistes, c'est de dire, oui, les rois ont fait la France en 1000 ans et Bismarck a fait la même chose en 50 ans. C'était une différence d'époque, c'est tout. On avait accéléré et seul Napoléon l'a compris. Simplement, il n'avait pas les moyens techniques de son génie. Bismarck avait les trains, vous voyez, tous les moyens modernes que n'avait pas encore Napoléon. C'est cet entre-deux qui est mortel pour lui.
Merci Eric Zemmour.
Mon préféré, mon sosie.
Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? J'ai voulu montrer...
Que Vichy n'était pas le mal absolu ?
Si vous finissez mes phrases, laissez-moi finir mes phrases. Ah, c'est sûr que par rapport aux nazis, c'était pas le mal absolu, Vichy, ça c'est sûr. Donc, deuxièmement, j'ai voulu montrer la complexité, qu'on avait oublié la complexité de l'histoire.
Et c'est ça qui est intéressant dans Vichy, c'est ça qui est intéressant vis-à-vis de Vichy et des Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Vichy, c'est un régime qui émet des lois antisémites. Paxton dit « ce n'est pas sous la pression des Allemands », d'autres historiens disent « c'est sous la pression des Allemands ». Deuxièmement, ils font donc des statuts des Juifs, etc. Mais ensuite, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où cette complexité a été gommée par Paxton, et que ça, on en parlera après si on a le temps, ça a des conséquences politiques et idéologiques, c'est qu'en vérité, Vichy fait un pacte avec le diable, c'est qu'il négocie avec les Allemands, et qu'il dit, on vous donne les Juifs étrangers, sans savoir jusqu'en 42 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, Et simplement, vous ne touchez pas aux Juifs français. On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne s'en sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. En Hollande,
Eric,
en Pologne...
Éric, c'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les Justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français. C'est pas Pétain.
Ça, c'est la doxa dominante.
C'est Pétain qui a sauvé les Juifs.
Je vous engage.
Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non.
Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Je vous engage.
Alors c'est pas grave, il y avait les Juifs étrangers qui sont partis.
Est-ce que j'ai dit que c'était pas grave?
Mais oui, mais c'est ça qu'on sous-entend derrière.
Mais pas du tout.
Mais si,
j'ai dit que c'est compliqué.
Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée te salue, maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà, tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse héros de Verdun, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal,
maréchal,
nous voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons. De suivre tes pas. Maréchal,
maréchal,
nous voilà,
nous voilà,
tu nous as redonné l'espérance, la patrie,
la patrie.
Pétain qui a sauvé les Juifs.
Je vous engage.
Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non.
Il a sauvé des Juifs français, oui.
Voilà, pour cet extrait, Laurent Joly, plusieurs choses à expliciter, à éclairer, notamment cette idée de cette histoire de la doxa Paxton, en référence à l'historien américain Robert Paxton.
Oui, alors là, on est vraiment, cet extrait, il est magnifique parce qu'on est vraiment au cœur de l'imposture zémourienne de l'histoire. À l'entendre, c'est lui qui incarne la complexité de l'histoire qui est gommée par d'autres. Vous voyez, c'est le renversement permanent de la réalité. Ça, c'est typique de Zemmour. En fait, l'idée de Zemmour, c'est quoi, là, quand on l'entend en résumé? C'est de dire, c'est grâce à Vichy que les Juifs ont survécu, vous le savez, aux trois quarts. Plus de 200 000 juifs ont survécu en France, 74 150 ont été déportés. Donc Paxton aurait imposé une idée simpliste qu'il faut, et lui dit, ben non, ce qui s'est passé, c'est que la complexité, c'était en fait que Vichy s'est retrouvé devant un pacte avec le diable. Donc, tout ça, c'est du vent, ça ne repose sur rien. D'une part, Paxton, lorsqu'il fait la France de Vichy, il s'appuie sur déjà, ce que je montre dans mon livre, sur 20 années de travaux, de recherche, qui montrent une chose très simple. C'est que le choix par Vichy de la collaboration, qui n'était absolument pas une fatalité, Vichy est une situation unique en Europe. On n'est pas en Pologne, on n'est pas aux Pays-Bas. Donc la comparaison avec la Pologne ou les Pays-Bas n'a pas de sens. La France garde une souveraineté importante, puisque vous avez la zone libre, que le gouvernement de Vichy est souverain en zone libre. Et que donc, les Allemands sont obligés de négocier avec Vichy quand ils veulent massivement des Juifs. Ils ne peuvent pas, comme ils le font ailleurs, les réclamer. Ou s'ils le font en zone occupée, ils risqueraient d'avoir, ils le savent, ils risqueraient à la fois d'être en contradiction avec les conventions. Et les Allemands font attention à la convention. Il y a une convention d'armistice, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font ailleurs. Donc c'est tout ça, la complexité de l'histoire, si vous voulez, qui amène. Et comme Vichy est dans une politique de collaboration en 1942, en sachant quand même, là aussi, autre mensonge de Zemmour, que les Juifs qu'on va livrer sont destinés à mourir. Voilà, on le sait dès juillet 42. Dès juillet 42, au moment de la rafle du Veldiv, le chef du cabinet civil du maréchal Pétain écrit dans son journal intime, il écrit « Les Juifs vont partir dans des wagons plombés, ils n'auront pas d'eau et les Allemands verront à l'arrivée ce qu'il reste de vivants ». Vous voyez, on sait, même si tout est fait pour ne pas vouloir le savoir, et qu'ils se sont tous mentis à eux-mêmes, le maréchal Pétain, Pierre Laval, le chef du gouvernement, son chef de la police, René Bousquet, ils savent que les Juifs qu'ils livrent sont destinés au pire. Voilà, donc, et on peut de chance de sortir vivant. Donc vous voyez, il est hors sol, Zemmour, il est complètement hors sol parce que cette dimension tragique qui attendait les déportés, elle a été comprise par l'opinion publique sur le moment. Et c'est parce que l'opinion publique a réagi, c'est parce qu'il y a eu pour la première fois une protestation des évêques publique, seule protestation publique pendant la période de la guerre, que Vichy a dû revenir en arrière et que les Allemands ont dû prendre en compte ce facteur de l'opinion pour ménager la position du président Laval. Mais le bilan, je parle quand même du bilan parce qu'il est quand même très important, c'est que quand Vichy accepte de collaborer et collabore massivement, eh ben on va livrer près de 40 000 juifs, 35 000 juifs, qui vont partir, 35 800 pour être exact, qui vont partir entre le 17 juillet 42 et le 11 novembre 1942. Des Juifs, en effet, étrangers. Mais on a pris aussi leurs enfants. Et leurs enfants étaient français. Étaient français à titre définitif, pour les trois quarts d'entre eux. Donc ils avaient normalement des droits que Vichy aurait dû, évidemment, puisque Vichy, soi-disant, voulait protéger les Juifs français, aurait dû prendre en compte. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans ces 40 000 juifs qui vont être livrés en 1942, vous avez aussi un grand nombre de juifs français qui sont arrêtés en dehors des rafles. Parce que quand vous commencez à faire une rafle massive, Paris, en deux jours, on a arrêté 13 000 personnes. Bah, tout le monde se sent concerné. Tout le monde commence à se cacher. Les gens essayent de fuir essayent de fuir en zone libre. Et là, vous avez en masse des juifs français qui ont été arrêtés. Donc Vichy, la vérité historique, est que Vichy ne s'est absolument pas mis en situation de protéger les juifs français. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le jeu d'Éric Zemmour et de considérer que c'est moins grave de déporter des juifs étrangers. Enfin, vous voyez, c'est la grille de lecture d'un Zemmour. La vérité, c'est que Vichy avait les moyens de dire non, avait les moyens de dire, on ne peut pas vous donner des juifs, des femmes, des enfants, on ne peut pas. Et pourquoi Vichy ne fait pas ce que le maire de Bruxelles, que le maire de Bruxelles est en mesure de faire. Le maire de Bruxelles, en juillet 1942, refuse de mettre la police de Bruxelles à disposition des Allemands. Il dit, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit, sinon, moi, je risque d'être poursuivi par la justice. Donc, pourquoi le maire de Bruxelles peut dire non? Et pourquoi Vichy ne peut pas dire non en juillet 1942? Alors que Vichy va dire non un an plus tard, quand il n'y aura plus de zone libre. Donc, vous voyez, quand vous décortiquez tous les arguments, vous voyez qu'il ne reste rien.
Et que les gens du Sud viennent en Europe, ça pose aucun problème. Nous-mêmes, on en vient du Sud.
Complètement.
Oui, donc à la limite, ça serait ridicule de notre part de critiquer des gens qui nous ressemblent beaucoup.
Complètement.
Et qui, bon. Sauf qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et donc, cette quantité prend comme étendard l'islam. Ce n'est pas écrit, hein, ça aurait pu être autre chose, hein, mais c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser? Parce que, pour une raison simple, qu'est-ce qu'un immigrant? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Vous voyez, c'est à Rome fait comme les Romains. Mmh. Alors, On reproche assez, on donne des prénoms français à ses enfants, on habille ses enfants, on veut qu'ils soient bons à l'école pour qu'ils puissent
acquérir la culture. Oui, c'est tout le début de votre bouquin.
Voilà, et comme on faisait avant. Ça s'appelle non, les immigrés.
Je m'y suis reconnu complètement. Bah,
ouais. Évidemment, tout le monde s'est reconnu. Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi, mon père était italien, mon père était espagnol. Tout le monde
s'en voulait être français, mes parents parlaient arabe et espagnol, et ils n'ont jamais voulu
voir. Voilà, comme chez moi. Mon père parlait très bien arabe.
Mais ce qui est dommage, d'ailleurs,
mais oui, c'est ce qu'on dit. Ma mère interdisait de parler arabe. Et mon grand-père ne faisait parler arabe qu'en insultant ma grand-mère. C'était le seul moment où il se lâchait.
C'était les mots de bénédiction et les insultes.
Exactement. Voilà. C'était très drôle. Alors. Donc, c'était le folklore. Voilà, les langues étrangères, c'était le folklore. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants. Ils parlent, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays. Ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez tout ça. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur.
Il veut faire un État dans l'État.
Exactement.
Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État.
Vous savez que vous, sans le savoir ou peut-être en le sachant, vous avez repris la formule de Richelieu, l'État dans l'État. Et Richelieu trouvait ça intolérable, et il l'a fait payer très cher aux protestants, parce qu'il les accusait d'être un État.
Mais sans insulter certains sont nos amis, les arabo-musulmans qui sont en France,
comme j'insulte
sans les
personne.
Insulter, mais est-ce qu'on ne peut pas leur faire comprendre ça, que, en fait, la France est un pays laïque, ce pays que nous, on a aimé, est un pays où... Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans le jeu, à un moment, vous disiez, à mon époque, on disait pas kippa, on disait calotte. Et ben moi, je me souviens qu'on disait calotte
mais
aussi.
Évidemment.
Sans insulter cette communauté, pourquoi ne pas leur dire, entrez dans nos règles, faites que la France soit plus riche encore, car vous leur apportez une culture, mais en respectant celle que vous avez adoptée.
Mais c'est même pire que ça. Moi, je leur dis, parce que j'ai des gens avec qui je discute, et j'ai des gens qui m'écoutent et avec qui on échange. Moi, je leur dis, mais vous êtes venus ici justement pour quitter les défauts de la culture arabo-musulmane. Et vous avez bien raison, parce que, vous savez, on dit toujours le christianisme a un problème avec l'argent, le catholicisme a un problème avec l'argent, le protestantisme a un problème avec le sexe, vous savez, toujours ce qui est en partie vrai, en partie faux, peu importe. Et l'islam a un problème avec la liberté, en vérité. Parce que ça ne veut pas dire soumission pour rien. Et donc les gens qui viennent en France, c'est parce que l'islam a un problème avec la liberté.
Et parce qu'ils veulent la liberté.
Exactement. Vous savez, Lévi-Strauss, à la fin de Triste Tropique, on le cite jamais, dans les dernières pages de Triste Tropique, vous pourrez aller chercher, fait une comparaison entre le christianisme et l'islam. Et il dit pour l'islam, son problème, c'est qu'il néantise l'autre. C'est qu'il ne supporte pas l'autre. Et quand on dit l'autre, ça veut dire le non-musulman, ça veut dire la femme, ça veut dire l'étranger, vous voyez. C'est tout un ensemble. Bon. Donc, ces gens-là, ils quittent les défauts de la civilisation arabo-musulmane, c'est pas pour les retrouver ici. C'est même une folie pour eux. Donc, plus ils viennent ici, et plus ils détruisent ce qu'ils sont venus chercher.
Ah, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte entre les deux seins. Dans un salon de coiffure pour une dame seulement. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Oh, ce que je voudrais, c'est être un fauteuil dans un salon de coiffure pour une dame. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Ceinture, et serrer votre taille pour ne perdre aucun détail de l'étrange combinure. J'aimerais être la poussière de vos ongles sous la lune.
Vous ne pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec les bah, en mille, c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris?
Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, ça, pourquoi, ils sont, venus, pourquoi ça, ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On a d'abord, on avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein? Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830, d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens.
On les a remis dans des gourbis, non?
Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été, d'abord ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. Bon, c'était le vol des autoradios, ça a commencé comme ça, dans les années, fin des années 70. Donc, moi j'avais toute ma famille dans les banlieues, je sais exactement ce qui s'est passé, je l'ai vu. Donc, ne me racontez pas d'histoire.
On m'a dit, putain, Kawa, faut pas d'histoire.
C'est pas ton dieudo.
Alors du coup, je casse d'être ce trac au vrai contre-pouvoir.
Merci à la police, aux gendarmes.
Yeah. Éteins ta télé, lis un livre.
J'ai bien voulu qu'on débatte.
Soutiens les esprits libres. Yeah. Snowden, Assange, yeah. Wikileaks.
Yeah. Stéphane Hessel.
C'est longtemps affronté. Charlie Hebdo, Bradley Manning.
On est souvent du même côté.
Rémi Garnier. Anonymous, les prisonniers politiques du monde entier. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé. On assassine toujours les messagers.
Le savoir est une arme, le savoir est une arme.
Le savoir est une arme, et on s'en toujours à aller.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour comprendre. Le savoir est une arme.
Non, je sais.
Ouais. Le savoir est une arme.
d'instruction massive, y'a pas que les photos de charme. L'intromission assiste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres. Parlant du fond du cœur, de la vérité vraie du monde, depuis toujours c'est les vainqueurs qui violent et qui fécondent pour dire on a baisé vos femmes. On est les leaders génétiques, la domination animale, ce vieil instinct archaïque. Tous les assassins de la guerre sont des héros s'ils gagnent la guerre. Nagasaki, Hiroshima, tandis les manuels scolaires, les lance-pierres de Palestine qui sont punis par des missiles. Un blessé pour 200 morts dans l'expédition punitive. Le terrorisme est inactif, selon le sens des bombes. Ils envahissent le tiers-monde lorsqu'il y a deux buildings qui tombent. Les collabos, les colonies et le code noir. Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Faut-il vraiment choisir un camp entre Youssef et Joseph? Tout vainqueur insolent à sa perte de travail, prenez garde d'être modeste après le gain d'une bataille. Car parfois le futur au passé joue des tours. Nos actuelles préfectures sont nos anciennes commandantours. On y soit la guerre et les teubés qui la pratiquent. On voit jamais qu'on tue des frères quand on joue à Battlefield 8. On fait la fête, on redécore pour des causes vite oubliées. Mais rappelez-vous que les morts n'apprécient pas le jubilé. Population mondiale, prenez bien garde à vous, sous peine de voir votre liberté, le crâne rasé à genoux. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme.
Mais rentrez, oh putain.
8h15, un coup de feu retentit. L'auteur est l'un de ses policiers. Au volant, le conducteur Naël, un adolescent de 17 ans conduisant sans permis. Il meurt. Selon le policier, il aurait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier. La garde à vue et la mise en examen de l'agent de police n'y font rien. Rapidement, des individus appellent à venger l'adolescent. Dès la fin de l'après-midi, Nanterre et les villes voisines, mais aussi les cités de Colmar, Mantes-la-Jolie, Bordeaux et Marseille sont investis par des émeutiers. Des barricades sont érigées puis incendiées. La cité Pablo Picasso, où réside la famille de Naël, se transforme en champ de bataille. Émeute à Nanterre, dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Des dizaines de policiers sont blessés. Le bilan de la nuit annonce l'ampleur du soulèvement.
Ce qui est perturbant, en tous les cas ce qui peut perturber le téléspectateur ce soir, c'est que à travers ces scènes de pillage, ces interpellations, la majorité est française. C'est-à-dire que ce sont des Français, ce sont des personnes qui sont nées en France qui ont peut-être commis ces exactions.
C'est la question sempiternelle de qu'est-ce qu'être français, en réalité, vous posez. Vous avez raison, juridiquement, la plupart sont français. Je note déjà que... Vous avez vu la réaction du gouvernement algérien il y a 24 heures, qui parle de ses ressortissants. Pour lui, ils sont algériens. Déjà, c'est intéressant. Ça prouve que c'est plus complexe qu'on ne le croit. Après, je vous ai dit, j'entends qu'est-ce qu'être français. Vous savez, il y a eu des textes magnifiques écrits, en particulier le texte d'Ernest Renan, très connu, pour essayer de définir ce qu'est être français. Parce que ce qu'est être français, c'est à la fois faire partie du peuple français depuis des siècles, être là, avoir fait de grandes choses, avoir connu de Jeanne d'Arc à la guerre 14, vous voyez, il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans. Ça, c'est être français, au départ. C'est le fameux français de souche. Et puis, il y a les français de branche, comme je dis moi. J'en parle librement, j'en suis. C'est-à-dire venus d'ailleurs, et qui aiment tellement la France qu'ils veulent s'assimiler à la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'assimiler à la France? C'est pas seulement un état d'esprit, comme j'entends. Ça, c'est le Renan pour les nuls. Non. Vous savez, j'ai lu il y a quelques semaines un article très intéressant dans le Figaro, un portrait de Madame Sylvia Nagasensky, qui est une grande intellectuelle, une femme de grande qualité, épouse de Lionel Jospin. Vous voyez, ce n'est pas spécialement de mon camp, comme on dit, mais on lui demande, son grand-père était polonais, il est venu en France, son père était ingénieur et elle rentrait à l'Académie française. Et on lui dit, mais qu'est-ce que c'est pour vous devenir français? Qu'est-ce que c'est que l'assimilation? Et elle a cette réponse magnifique que lui avait faite son grand-père. Il lui avait dit « J'ai remplacé les rois de Pologne par les rois de France. » Et bien, être français, c'est ça. Et vous voyez, ces gens-là, je ne leur jette même pas la pierre, pour la plupart, parce qu'il y a toujours des exceptions, pour la plupart, ils ne veulent pas remplacer les rois de, pas de Pologne, mais d'Algérie, du Mali, par les rois de France. C'est tout le problème. Alors, à part ça, si vous voulez, c'est fondamental. Quand on est à ce moment-là et qu'on ne veut même plus, parce que nous avons des élites françaises complètement travaillées par l'idéologie de gauche, de la déconstruction, qui ne veulent même plus leur imposer cette assimilation, eh ben nous avons des enclaves étrangères où une autre civilisation prend corps, une autre civilisation arabo-musulmane qui n'a rien à voir avec notre civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, gréco-romaine, et qui devient son adversaire. Parce que trop de souvenirs de guerre, trop de souvenirs d'affrontements, jusqu'à récemment la colonisation, hantent les esprits. Et le résultat, c'est ça. Aujourd'hui, on a en vérité des émeutes contre la France. C'est ça. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons des émeutes contre la France, avec la haine de la France comme moteur, accessoirement la volonté de piller les magasins, on voit les images, mais fondamentalement, c'est la haine de la France qui est le moteur de tous ces gens, et de tous ces pillards, et de tous ces émeutiers.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Dans la rue, l'humeur est sale.
C'est rien, c'est rien.
De la rue montent les rumeurs.
Ça va pas bien loin.
Et si les casques bleus calent,
c'est rien, c'est rien.
Si c'est chaud sur l'asphalte,
c'est rien, c'est rien.
On passe tes barricades, on pète tes barrières. On a la barre, on déraisonne et on craint plus personne. Toi t'appelles les renforts, la rage du renfort. Sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Insensible aux propagandes, des mecs qui glandent. Ceux-ci bandent hélas et veulent tout péter en bombe. Comme dans un James Bond ou un Banderas. Là t'as pas de télécommande, donc on dicta. En force, en foule désordre.
C'est rien, c'est rien.
Pour toi, on a une corde.
C'est rien, c'est rien.
Tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chêne. On va changer les programmes sur ta première chaîne. C'est rien, c'est rien. Ça va pas bien loin. Impur, les règles n'existent plus. La foule a compris et ça n'hésite plus. Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe et un cri en fausse. Si l'émeute s'étend,
c'est rien, c'est rien.
Et si c'est inquiétant,
ça va pas bien loin.
Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées. Et ta citoyenneté, on n'en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est dans Hollis que j'aime. Qu'il y a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste. Un coup de gueule des sous-classes de la République. C'est un champ de bataille sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix. On lâche pas le contrôle,
c'est rien, c'est rien.
Sur la lisière de l'émeute, subit la haine de la meute. C'est rien, c'est rien. Ça va pas bien loin. Y'a plus et qu'ils le sentent,
c'est rien, c'est rien.
Si la tension est oppressante,
ça va pas bien loin.
S'il y a plus de respect, plus de cadets, plus de gradés. Et que tous vos conseils, on en a rien à péter. On va tout dégrader, la banque va sauter, la boulangerie d'à côté. On fout le feu chez le voisin histoire de se venger. S'il y a des buts cassés,
c'est rien, c'est rien.
Si on vient tout plier,
ça va pas bien loin.
Si le maire s'est sauvé,
c'est rien, c'est rien.
Et même s'il y a l'armée,
c'est rien, c'est rien.
Si y a des jets pavés, des comas, des hématomes, des blessés, des décès. Si ton pays est stressé, si y a le feu au village,
s'il y a le feu dans la ville,
si tu vois saigner les civils,
si ça tire dans l'entourage,
c'est juste une nuit d'émeute où le diable jubile. Deux jours aux infos, après on est tranquille. C'est rien, c'est rien. Ça va pas bien loin.
Éric Zemmour, vous avez publié une lettre aux parents français dans le Figaro, et je voudrais vous lire. Vous citez un enfant qui dirait à ses parents, en revenant de l'école, ce qu'il a fait à l'école. « J'ai appris que la France est un pays raciste, colonialiste, islamophobe, que c'est un pays qui était autrefois dirigé par des rois catholiques qui étaient des dictateurs. Heureusement, la révolution leur a coupé la tête. Mais depuis, les réactionnaires, les extrêmes tentent d'empêcher de progrès. J'ai appris, papa et maman, que la chasse, la consommation de viande, toutes les traditions paysannes doivent être interdites, remplacées par des éoliennes. J'ai appris que l'islam est autant une religion française que le christianisme, que ce sont les parents des immigrés qui se sont battus pour la France en 14, en 45. J'ai appris que les femmes sont les victimes des hommes qui sont tous des violeurs. J'ai appris que je peux changer de sexe si je veux parce qu'on ne naît ni fille ni garçon. Mais vous n'avez pas honte?
Ah non. Ah, je vous assure.
Franchement.
Que... Ah non. Vous
c'est,
savez,
c'est pas
j'ai...
une caricature, ça?
Ah, c'est une, vous savez, c'est pas une caricature, mais la caricature est très utile parce qu'elle permet de montrer la réalité. C'est une formule rhétorique classique, vous savez, la caricature, qu'a utilisé Voltaire, qu'ont utilisé tous les philosophes, qu'ont, vous voyez, c'est une formule rhétorique littéraire qui permet de faire comprendre. J'ai des enfants. J'ai eu parce qu'ils sont grands maintenant. Mais j'ai connu leur scolarité, j'ai suivi leur scolarité, j'ai vu les programmes, j'ai vu ce qu'on leur apprenait. Et je vous assure que cette caricature n'est pas très loin de la réalité. Par exemple, pour les peuples colonisés qui auraient défendu seuls la France en 14, j'ai repris moi-même ma fille.
Seul ? Quelqu'un vous a dit seul ?
Je vous assure, regardez les cours des profs, regardez-les, en tout cas qu'on les mettait au premier rang et que c'était eux qui se faisaient massacrer. Vous voyez, par exemple, ça.
Est-ce qu'on a appris à vos enfants que les hommes sont tous des violeurs ?
On a appris à nos enfants que les hommes sont des prédateurs et qu'ils ont persécuté les femmes et qu'ils ont... Oui, on leur a appris toutes les semaines des notions sur le développement durable, obsessionnellement. On leur a appris sur les hommes et les femmes. Et maintenant, on leur apprend qu'on peut changer de sexe si on veut, qu'on est homme ou qu'on est femme. Il y a quand même d'innombrables histoires, d'innombrables affaires qu'on voit, que l'on m'a racontées, que je lis, sur des enfants qui rentrent et qui disent « Est-ce que je suis un garçon ? Est-ce que je suis une fille ?» Je ne l'ai pas inventé.
Mais ces questions-là, non. Pour le coup, c'est pas seulement à l'école, c'est des questions que tout enfant, à un moment ou à un autre,
pose. Vous avez tout à fait raison, on se pose tous ces questions quand on est enfant, je dirais même adolescent, moi, pas tellement enfant, mais peu importe.
Adolescent, oui.
Ouais, vous êtes d'accord. Là, ce sont des enfants. Et surtout, ce n'est pas la hiérarchie scolaire. Vous voyez, l'administration scolaire, les professeurs, des associations qui rentrent. Parce que c'est ça que je veux condamner. Et c'est pour cela que j'ai préparé, ça serait, si j'étais élu, ma première proposition de loi.
Ce serait quoi votre première proposition de loi ?
Pour interdire l'entrée des associations LGBT, féministes, antiracistes et autres, les Traorés et les Turam qui rentrent à l'école, moi, j'interdirais l'entrée de ces associations qui endoctrinent nos enfants. Voilà.
À
l'école publique, évidemment.
Qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école de
Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil poil aux tresses, qui pousse des soupirs quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil poil aux doigts, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite.
Zoom, 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 zoom.
Marc, il n'y a pas de violence policière. Il ne peut pas y avoir d'expulsion de ces gens sans violence, puisqu'ils résistent. Donc non. Il faut assumer la violence. Il faut l'assumer. Quand on est l'État, on assume la violence. En tout cas, moi, j'assume la violence, surtout que ce n'est pas de la violence. C'est à la limite de la brutalité. Et moi, j'assume la brutalité. Ces gens-là n'ont rien à faire là. C'est eux qui devraient pas être là. Ils sont, en plus, je vais vous dire, vous faites, pardonnez-moi, une erreur de diagnostic. Je vous renvoie à l'excellent livre de Stephen Smith, qui est le grand spécialiste de cette affaire-là, et qui a très bien analysé que ces gens-là ne sont pas les damnés de la Terre, que ce ne sont pas les plus pauvres d'entre eux. Au contraire, ce sont des gens qui, justement, ont un pécule, comme je vous l'ai dit. Tout ça est organisé, et ils n'ont pas le droit de venir chez nous. Mais on n'en veut pas,
Marie.
Ils n'ont pas un droit à venir chez nous.
Ça n'excuse pas la brutalité.
Mais si, ils n'ont pas un droit à venir chez nous.
Ça n'excuse pas la brutalité.
Mais bien sûr que ça excuse. Mais ça n'excuse pas. Je vais vous dire quelque
chose.
Ça n'excuse pas. Ça la légitime. Ça la légitime. Je vais plus loin. On a le droit à la brutalité face à des gens qui sont brutaux avec nous. Que ce soit les migrants, les associations, les avocats, tous ces gens-là, en vérité, nous brutalisent à nous, Français. Puisqu'ils ne respectent pas nos lois.
En fait, vous
qui
dites
brutalise qui?
En fait, vous dites que force doit rester à la loi.
Je vous le fais pas dire.
Des températures quasi estivales en France. Est-ce qu'on va tous mourir demain matin?
Comment expliquer
un sa mère, elle fait beau.
Je voudrais d'abord que vous calmiez.
Trop bien.
Le soleil tabasse comme un keuf trop zélé. Qui a trop cru que les manifs c'était Smash Bros mêlé. Je sais pas si c'est le pollen ou les lacrymogènes. Mais y'a comme un truc dans l'air qui vient me chatouiller le zen. Les petits oiseaux chantent et si on parlait l'oiseau, on capterait qu'ils chantent plein de trucs v'là méga beau. Genre
tout le monde déteste la police. Ouais, tout le monde déteste la police.
Et ça passe des lois. Ouais, ça passe des lois quand tout le monde sort les maillots à la playa. Mais salut, c'est nous les pauvres, on est la faille dans ton plan. Chez nous, y'a pas de vacances, y'a que le bordel tout le temps. On check, bison futé pour l'itinéraire du cortège. Veste qu'il est juilletiste en route pour l'Ariège. Vigilance rouge et noir quand tu bronzes comme un lézard. Sur un caillou, nous on les balance, c'est pas au hasard.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Casser du keuf, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Oh, t'aimes, comme il fait beau.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Casser du keuf, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Sous le soleil qui brûle.
En Ottawa.
Oh désolé mon beau.
Mais pour détruire les couches d'art faudra te lever tôt.
On réquisitionne juste l'espace public. Comme la flicaille réquisitionne les crouses pour les JO. Tu veux jouer?
Okay.
On va comparer les victimes. De notre côté des bagnoles brûlées et des vitrines. De ton côté t'as des morts mais c'est tout le temps ta faute. Et 343 meurtres depuis 2010. Et au JT jamais on en parlera. C'est aussi peu surprenant qu'un code PIN d'Antifa. Mais nous on n'oublie pas, non comptez pas là-dessus. Même s'il fait trop chaud pour les cagoules on prend la rue. Ah, en fait non. Tu crois que tu t'en tires, on a ta plaque et ton nom. Ouais bande de porcs, personne vous aime. À part les vieux fafa brevets à BFF.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Leur casser la gueule.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Sous le joli ciel bleu azur.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Les démonter, démonter.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Sous le soleil qui brûle.
Le point positif du réchauffement climatique, c'est que vous allez crever de chaud sous vos armures dystopiques. L'arrêt du cul irrité par la sueur qui brûle et qui pique. Plus ça gratte et plus tu regrettes tes élans patriotiques.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Ah,
comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Casser du, casser du, casser du.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Démonter de la volaille, ouais, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Oi, oi, oi.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Casser du keuf, ouais, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Les démonter, démonter.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Nique la police.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf. Comment qu'il fait beau.
Vous voyez Éric Zemmour aussi haut dans les sondages, hein, c'est 17-18% selon le sondage Harris Interactive. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit peut-être de la société française ou de ceux qui font les sondages?
De l'horreur. De l'horreur. Je suis petit-fils de résistant. Une partie de ma famille n'est pas revenue des camps de concentration. Et quand j'entends quelqu'un qui nous explique aujourd'hui que le maréchal Pétain a protégé les Juifs, je ressens de l'horreur. Je ressens de l'horreur, c'est souiller la mémoire de ces millions de Juifs. C'est annihiler tout le travail qu'on a pu faire après la Shoah pour que jamais ne revienne cette époque. Monsieur Zemmour est quelqu'un qui est représentatif de l'extrême droite française qui a mené notre pays au chaos, au déshonneur et à la barbarie. Il faut en effet qu'aujourd'hui un front républicain se dresse contre lui. Ce personnage représente ce qu'il y a de plus sombre dans notre histoire. Quand il dit des choses comme ça à la télévision, c'est de l'imposture, c'est du mensonge. Vos collègues ne devraient pas lui permettre de proférer de pareils mensonges devant les téléspectateurs. Donc je suis effrayé. Et après, si vous me permettrez, si vous me permettez un propos un peu plus léger, et sincèrement, je ne sais pas si on peut le faire.
Allez-y.
Mais Monsieur Zemmour est un tartuffe. Il nous explique qu'il faudrait que tous les gens qui vivront en France aient un prénom français. Mais son nom, qui est un très beau nom, Zemmour, ça vient d'une racine sémitique qui veut dire le joueur de flûte, le pipeau. Donc si M. Zemmour considère que tous les Français doivent porter des noms francisés, qu'il change de nom. Et je lui propose Éric Pipeau. Je pense que ça sonne très très bien. Donc qu'il aille jusqu'au bout et qu'il commence par s'appliquer ces méthodes scandaleuses à lui-même. Moi, je pense que la nation, c'est pas ça. La nation, c'est pas la race. La nation, c'est la citoyenneté. Tout le monde est citoyen et a le droit, dans un rapport direct avec la République, de participer à l'activité de la République. Voilà.